mot de J.S. Singer, de Jacques Neff, enfin bon, vous connaissez tous ces textes bien, bien mieux que moi, donc je n'y reviendrai pas, de Sylvie Trier encore récemment. Voilà, alors n'étant ni flaubertien, ni philosophe, hein, je réclame doublement votre intelligence, et j'espère, bon, ça ne coûte rien d'espérer, que la règle mathématique, hein, moins par moins égale plus, se vérifiera de quelque façon aujourd'hui. Vous avez le plan donc de mon intervention aujourd'hui. Alors, c'est très chargé, vous verrez, on verra si j'aurai le temps de tout aborder. J'ai peut-être vu un petit peu trop grand. On verra ce que ça donne. J'avais pensé faire, mais finalement, je ne vous ai pas envoyé d'exemplier parce que je m'appuierai ou je renverrai à des passages quand même très connus de l'éducation sentimentale. Donc, je ne pense pas que c'était nécessaire pour vous. Ou alors à des séquences dans leur globalité qui ne pouvait pas être citée intégralement. Voilà. Donc mon premier point que j'ai intitulé les formes de sociabilité, je me propose dans cette première partie de distinguer des formes de collectif et distinguer trois formes de collectif dans l'éducation sentimentale: le cercle mondain, le défilé de l'événement, la spirale amicale. Voilà comment j'ai intitulé ces points. Donc première forme de groupe, de collectif. Ce que j'ai appelé le cercle mondain. On sait que dans l'éducation sentimentale, comme dans de nombreux romans de formation, on a un jeune homme, le héros, si je puis dire, un personnage focalisateur qui se déplace à l'intérieur de l'espace parisien et qui découvre et fait voir en même temps des mondes, des sociétés, des groupes. Et le roman, comme chez Balzac, là encore, semble d'abord saisir comme ça des groupes et les mœurs, l'éthos de ces groupes, une certaine circulation de la parole, certains signes, une certaine atmosphère, hein, propre à des espaces, notamment dans les séances les scènes de réception, et notamment chez les Dambreuses. C'est le premier espace premier niveau que l'on peut distinguer, qu'on pourrait appeler une sorte de sociabilité territorialisée, hein, liée à l'appartenance à un territoire, liée à l'appartenance à un même espace, au partage d'un espace. Et on a comme ça le narrateur qui épingle dans des petites sortes de vignettes ou des tableaux miniatures la manière dont les acteurs sociaux se rencontrent, se donnent en représentation et révèlent sur un mode souvent théâtral leur habitus. Un seul exemple, hein, la peinture de Madame d'Ambreuse qui, par intervalle, lançait une parole plus haute, quelquefois même un rire, hein, avec une artificialité volontaire. C'est cette forme d'exploration du territoire, d'ailleurs, qu'on retrouvera de manière amplifiée et systématisée chez Zola, bien sûr. Alors, il y a des Zoliens, je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans, mais comme la présentation du séminaire comparait les deux, on peut rappeler ici, hein, bien sûr, qu'on retrouvera ça chez Zola, je sais pas, dans certains chapitres de La Fortune des Rougon, ou pour prendre un exemple bien connu, dans L'Assommoir, hein, les scènes de repas, ou la scène du repas chez Gervais, c'est réunir les voisins, hein, ceux qui partagent un même espace se retrouvent, et on a ce terme de la société qui est utilisé à leur propos. Alors, il me semble qu'on ne retrouve pas chez Flaubert, en tout cas dans l'éducation sentimentale, le même nombre de détails et d'attention aux détails, qu'on pourrait dire sociologiques, que chez Balzac. Ce qui est manifesté surtout, c'est cette volonté de faire lien, de manifester une sorte d'union, hein. Il s'agit de montrer l'effort de faire se tenir ensemble un groupe, hein, de donner des signes, en quelque sorte, matériels, représentables, de cette union. Et si on veut prendre un modèle esthétique, ce sera celui du théâtre, sans doute, hein, je l'ai déjà dit, mais d'un théâtre privé volontairement de son sens dramaturgique, hein, puisque ce type de socialité, hein, induit une technique de caractérisation, certaines techniques de caractérisation. Les personnages sont typés, ont un répertoire de gestes, d'attitudes qui les définit. On a une sorte de phénomène de jeu de rôle. Et les personnages adoptent le comportement, les mots déterminés liés à ce rôle. Hein, une sorte de sociabilité gratuite, hein, qui est présente dans l'éducation sentimentale. Et Flaubert semble s'intéresser davantage à ce jeu de formes, à ces formes, ce chatoiement de sociabilité, si je puis dire, plutôt qu'au trait objectif de ces classes dans une perspective qui serait taxinomique. Hein. C'est presque en deçà de tout contenu, comme une sorte de forme ludique de la socialisation, hein, pour reprendre les termes du sociologue Georg Simmel. On sait par exemple que chez Zola, cette question d'une société territorialisée a d'emblée des conséquences dramatiques ou narratives. Hein, la question de l'inclusion, de l'exclusion, hein, de celui qui veut entrer dans l'espace ou qui est exclu de l'espace est centrale dans ce domaine. On a l'impression que chez Flaubert, dans l'éducation sentimentale, la question ne se pose pas en ces termes. Cette problématique et cette conséquence dramatique est moins importante. Alors, si j'ai parlé de cercles sociaux, c'est parce que tout revient dans ces scènes. Hein, dans ces scènes, on a en permanence des paroles qui reviennent, des types d'interlocutions qui reviennent, des mais qui reviennent. Hein, vous avez comme ça, les scènes sont scandées par le retour d'aliments qui circulent, des marquages identitaires ou des marquages d'un certain ethos, encore une fois, se répète comme ça. On a des personnages, souvent des valets qui circulent, qui font des cercles autour des convives, autour donc d'une socialité ritualisée et qui se disposent concrètement même dans l'espace en cercle, hein, quelque chose de très, très frappant. Il y a une sorte de ronde des mots, de ronde des corps et de cercle, cette fois-ci au sens concret du terme, qu'on retrouve dans cette représentation. Et que là encore, je le signale au passage, on retrouvera chez Zola, un cercle se forma très vite, par exemple, au chapitre 1 de l'Assommoir, et la même image est reprise à deux reprises, je crois, dans le roman. Dans l'éducation sentimentale, hein, première manifestation sur le bateau, autour de Monsieur Arnoux, un cercle de passagers, de matelots se forme autour de lui lorsqu'il prend la parole et essaye de compte des galanteries, vous vous souvenez, à une paysanne qui est là. Lorsque Frédéric arrive chez les Dambreuses, il voit qu'il y a un large demi-cercle autour de la cheminée. À une autre scène un peu plus tard, il reconnaît Martinon dans un cercle de gens graves, hein, ou un peu plus tard encore, mais je ne vais pas multiplier les exemples, on aperçoit au bord des petits divans, ça et là, les autres debout qui formaient un cercle au milieu. Alors, ce motif du cercle, la ronde, renvoie aussi à une forme de courbure de l'espace, car le point important, me semble-t-il, c'est que les convives, les scènes elles-mêmes font cercle autour d'un personnage, hein, une sorte de satellisation. Les scènes s'organisent comme un spectacle, avec un cercle et quelqu'un au centre, ou une action, une situation au centre, qu'on va observer et qui va mettre en valeur un être par rapport aux autres et reconstituer de ce fait une forme de hiérarchie sociale ou une forme de compétition en quelque sorte entre les convives. On pourrait penser, si, pour évoquer des références philosophiques, on pourrait penser ici à la description que donne. Fictionnelle en quelque sorte, que donne Rousseau dans les discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, de la naissance en quelque sorte du social. Je vous lis rapidement. À mesure que les idées, les sentiments se succèdent, que l'esprit, le cœur s'exercent, le genre humain continue à s'apprivoiser, les liaisons s'étendent et les liens se resserrent. Hein. Les liaisons s'étendent et les liens se resserrent, donc il y a cette comme ça, constitution du groupe. Alors, on s'accoutuma à s'assembler devant les cabanes ou autour d'un grand arbre, hein, cette sorte de courbure de l'espace dont je parlais. Le chant et la danse devinrent l'amusement, ou plutôt l'occupation des hommes et des femmes oisifs et attroupés. Hein, ces femmes et ces hommes oisifs et attroupés, on pourrait penser ici à Flaubert. Et puis, chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Hein, donc, sauf une histoire de l'humanité en temps. Alors, en quelques phrases, mais on reconnaît les stades aussi et les aspects de cette socialité et cette constitution d'un être en vedette, en quelque sorte, autour duquel les choses se passent. Hein. Et on voit que, par exemple, dans la scène du bal costumé chez Rosanette, c'est autour de Delmar que le cercle se crée. Hein. On faisait de loin un grand cercle autour de lui. Dans une autre scène, c'est ultérieure, autour de Sisy. Et le signe à ses propres yeux de la réussite de Frédéric ou de la progression de Frédéric, hein, à la fin du roman, c'est le fait que dans une scène de repas de nouveau, c'est autour de lui que se fait le cercle. Hein. Cependant, il éprouvait un plaisir de vanité immense. Il se rappelait l'autre soirée, celle dont il était sorti, le cœur plein d'humiliation. Les dames formaient un demi-cercle en l'écoutant. Hein. Les dames formaient un demi-cercle en l'écoutant. C'est autour de lui, finalement, que les choses se constitue. Pour finir sur ce premier cercle, on remarque que c'est un cercle qui implique donc une forme de dépersonnalisation, hein, de désindividualisation. D'ailleurs, souvent, les paroles, j'y reviendrai, les paroles ne sont pas attribuées aux êtres, hein. Il y a un ensemble de codes, chacun est pris dans un ensemble de codes et de rituels. Et en même temps, il suscite le désir de se singulariser, le désir de se particulariser, hein, pour faire mieux que les autres. Je renvoie à un article de Juliette Alzoulay, hein, dans le livre Histoire et mœurs dans l'éducation sentimentale, chez Flaubert, pardon, vous retrouverez, vous connaissez bien sûr ce livre, où il y a cette oscillation, elle le souligne bien, entre un processus d'individuation, pardon, et un processus de désindividuation, affirmation des individus et en même temps une sorte d'aliénation par l'appartenance à ce groupe. Deuxième forme de socialité, ce que j'ai appelé le défilé ou deuxième figure du collectif humain, donc le collectif qu'on pourrait dire politique, qui se crée à l'occasion d'événements politiques et notamment de manifestations ou de révolutions dans l'éducation sentimentale. Donc
Sachant
ce
que l'humain,
collectif, lui.
ils me disent qu'il faut que j'écrive et je leur demande peut-être de m'en accorder ou pas.
Pardon. Alors, ce collectif, lui, naît d'un événement, en quelque sorte. Et un bon exemple de ça, c'est le chapitre 4 de la première partie, hein, où on a une sorte d'essoufflement de la narration. Hein, vous vous souvenez, la passion de Frédéric pour Madame Arnoux commençait à s'éteindre. L'espoir d'une invitation chez Dambreuse l'avait quitté. Il ne va pas à Rome. Il a abandonné son logement. Donc, il y a une sorte d'essoufflement de la narration. Et il y a, début du chapitre 4, constitution progressive d'un groupe, d'un collectif, à l'occasion d'une manifestation et d'une protestation contre des mesures politiques, qui fait progresser l'intrigue, qui relance l'histoire en quelque sorte, hein, qui relance l'histoire avec un petit h et l'histoire avec un grand h, et qui va enclencher donc un mouvement, qui va enclencher comme ça par un enchaînement de présences successives et par défilé de rencontres. Cette constitution du groupe, hein, pour reprendre les termes de Philippe Hamon dans l'article qu'il a consacré au défilé, se met en place le sémantisme à la fois d'un mouvement linéaire et d'une continuité. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'un défilé, c'est-à-dire qu'une série de présences défilent. Il y a le rythme de la marche, le mouvement, et le texte invente des enchaînements entre des images, entre des personnages. Le long d'un chemin, sans qu'il y ait retour ici, sans qu'il y ait cette circularité dont on a parlé. Et le motif du défilé, hein, insiste à juste titre Philippe Aron, permet donc de récupérer une chronologie et d'enclencher un récit. Il permet aussi de récupérer une forme de rationalité, puisque ce défilé a un but, tend vers quelque chose, vers un point d'arrivée ou vers une action. Alors, le critique cinématographique Serge Danet, à qui j'ai emprunté cette distinction de forme de collectif humain, de forme de présentation, la ronde et le défilé, les rapports de son côté à deux formes artistiques, hein, le théâtre d'un côté, le cinéma de l'autre. Hein, et l'on pourrait dire, effectivement, avec le risque de l'anachronisme, on pourrait reprendre la distinction à propos de Flaubert, puisque ces scènes effectivement de groupe ou de manifestation sont des scènes cinématographiques très souvent, hein, où on a l'impression d'un travelling qui se déplace, on est plongé dans la mêlée, on avance avec les manifestants, on suit une ligne plutôt que de voir des personnages disposés en cercle, on est en mouvement plutôt que on a des personnages en mouvement plutôt que qu'occupant un espace. Pour des raisons de temps, je ne prends pas des exemples, mais la scène, bien sûr, le début, en tout cas la longue séquence descriptive de l'entrée du pape aux Tuileries dans la troisième partie du roman, prend vraiment la forme d'un travelling avec une succession d'images, un enchaînement comme ça, et d'un groupe qui se constitue par agrégation successive dans le mouvement, en quelque sorte. L'opposition pourrait se dire autrement, en empruntant cette fois-ci une distinction à la distinction que fait Michel de Certeau entre lieu et espace. Le lieu, ce serait la configuration de position de manière stable, hein, et ça correspondrait au cercle. Il y a identification d'un lieu, hein, par la description de ses rituels, etc. Et de l'autre, l'espace apparaît comme un théâtre d'opération, hein, la présence d'un mouvement. Il y a spécification de l'espace par l'action de ces sujets historiques, hein, cette opposition-là. Et puis, entre les deux, on pourrait distinguer une forme intermédiaire, hein, qui renvoie à la socialité amicale, hein, ou la socialité festive, qui est aussi décrite dans dans l'éducation sentimentale, et c'est mon petit 3, donc du grand 1, la spirale amicale. J'ai appelé la spirale amicale, où il y a à la fois une sorte de mixte, en quelque sorte, hein, à la fois des liens substantiels, des liens quand même qui renvoient des liens, des affections, des affects entre les personnages, et qui sont aussi évidemment affaires de circonstances. Et qui apparaissent donc dans certaines scènes de bal à l'Alhambra, ou certaines scènes de réception des personnages, la pendaison de crémaillère chez Frédéric, le punch auquel Dussardier les convie, etc., etc. Si on veut à tout prix prendre une figure mathématique, hein, on pourrait parler ici de spirale, au sens où les choses reviennent, hein, mais à une place différente, et permettent de mesurer aussi l'évolution des rapports entre les personnages, l'évolution de la société. Alors, on a effectivement dans ce type de socialité plus de liberté, plus de mouvement, une forme de neutralité sociale plus grande. Et c'est en ce sens-là qu'on pourrait parler d'un espace intermédiaire entre la ronde et le défilé. Alors, plus précisément, dans le cas de Flaubert, sont des choses bien connues, le texte est particulièrement attentif aux marques de la socialité masculine, hein, à la manière dont les personnages disent et éprouvent les plaisirs de la table, dont ils évoquent et théorisent leur rapport aux femmes. D'une part parce que s'y révèle une collectivité unifiée, pleine, et qu'en même temps une forme de sentiment de soi est procurée au personnage. Hein, il y aurait à la fois ici, encore une fois, dimension collective et d'individualisation. Un seul exemple, hein, au moment des liqueurs, elle disparut. Donc, Madame Arnoux disparaît, la conversation devint très libre, Monsieur Arnoux y brilla, et Frédéric fut étonné du cynisme de ces hommes. Cependant, leur préoccupation de la femme établissait entre eux et lui comme une égalité qui les haussait dans sa propre estime. Vous voyez la finesse ici de la description, c'est qu'il y a à la fois effacement des différences, fusion dans cette socialité masculine, et en même temps sentiment de sa propre importance qui naît. Donc, là encore, et là on serait du côté de la première socialité, ce qui importe, c'est moins le contenu même des conversations, les opinions qui sont exprimées, que l'exhibition comme ça d'une forme de convivialité, d'une forme de théâtralisation volontaire des comportements et des prises de parole. Il y a une écriture d'ailleurs propre à cette forme de socialité, avec des sommaires, beaucoup de recours au discours indirect libre, souvent des phrases ou des propositions très brèves, souvent anaphoriques, avec des enchaînements fluides. Un seul exemple encore, ils parlaient très haut, tous à la fois, ils avaient retiré leurs redingotes, ils heurtaient les meubles, ils choquaient les verres. Hein, tout ça ponctué de points-virgules ou de virgules. L'artificialité ici de cette socialité est accentuée par la codification des pratiques, hein, par l'aspect ritualisé des moments décrits. Hein, par exemple, on a affaire à une soirée de garçons, et donc on a de l'alcool qui coule à flot, certains sujets de conversation, des bougies, des plats. Donc le théâtre, le roman saisit ce chatoiement d'apparence codifiée dont la substance importe peu, où il y a ce double aspect, hein, un tout bien réglé et libre, avec prolifération du tous, hein, c'est très frappant, là aussi quelques exemples, tous étaient très heureux, tous applaudirent, tous connaissant par Dussardier son langage, tous riaient beaucoup. Et ce qui intéresse Flaubert ici, c'est ce point où l'éthos d'un individu et celui d'un groupe se rejoignent, hein, ce qu'on pourrait appeler la socialisation au sens strict du terme, l'exercice de la fonction de socialité. Dans cette troisième forme de socialité. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est d'essayer de rendre compte maintenant du sens de ces groupes, de manière un peu philosophique, essayer d'interroger le sens, la nature de ces groupes, et à voir à partir de quel modèle conceptuel on pourrait penser cette tripartition. Et c'est à cet effet que j'utiliserai un petit peu les analyses de Sartre, hein, dans Critique de la raison dialectique, avec bien sûr le problème de l'anachronisme, mais ça a souvent été dit, hein, d'une part, Sartre reprend beaucoup d'exemples liés au XVIIIe ou au XIXe siècle, hein, donc sa conceptualité s'appuie sur des événements qui sont aussi ceux qui sont dans l'imaginaire flaubertien, et accessoirement, mais ce n'est pas indifférent à mon avis, Sartre était un lecteur, bien sûr, de Flaubert. Alors, la première possibilité, c'est le petit 1, une société sans classe, sous forme interrogative. Je vais être très rapide sur ce point. C'était pour dire que la conceptualisation ou l'idée de saisir ça à travers le prisme simplement des classes ou d'une certaine lutte des classes me paraît ne pas fonctionner complètement dans le cas de l'éducation sentimentale. Puisque assez souvent, les scènes de groupe ont pour effet de relativiser les différences sociales. On a comme ça un social qui est coexistence de groupe, qui présente des totalités momentanées. Et on pourrait dire qu'en ce sens, Flaubert radicalise le constat que Balzac faisait déjà dans certains textes au début des années 1830, de l'idée d'un pays ou d'une société faite de briques et de brocs, une sorte de collection de formes de socialité. Et ce n'est pas un hasard si Flaubert évoque à nombreuses reprises dans l'éducation sentimentale des lieux dans lesquels, je le cite, plusieurs couches de la société se trouvent réunies. Autour d'Arnoux au début du roman, dans le bal d'Alhambra, chez les Dambreuses dans la troisième partie, où il y a encore une fois des classes différentes qui se rencontrent, qui se reconnaissent. Encore une fois, c'est sans doute illusoire, mais le temps d'une soirée, le temps d'un repas, se reconnaissent une forme de proximité et effacent les frontières. On voit là aussi l'art industriel au début du roman est un lieu de rendez-vous commode, un terrain neutre, écrit Flaubert. Et à l'autre bout du roman, les salons des filles étaient aussi un terrain neutre. On retrouve cette même formule où les réactions de bord différents se rencontraient. On peut noter bien sûr aussi qu'à mesure qu'avance le roman, la place faite au déploiement des signes sociaux, des signes d'appartenance de classe au sens strict du terme, recule. Puisque une des conséquences provisoires de la révolution de 1848, c'est d'effacer ou de suspendre un temps les différences entre groupes sociaux. On avait une gaieté de carnaval, des allures de vivac. Rien ne fut amusant comme l'aspect de Paris les premiers jours, cet aspect de mélange qui est là. Donc il y a un brouillage progressif des séparations établies qui fait que on ne pourrait pas simplement dire que ce que présente le roman, c'est une distinction de classe, une lutte de classe déterminée, figée et fixée pour tout le roman. D'où l'intérêt peut-être de mobiliser d'autres paradigmes, d'autres modes de pensée, et notamment l'opposition que fait Sartre, donc critique de la raison dialectique, entre le groupe et le collectif, ce qu'il appelle le groupe et le collectif, ou autre formulation, le groupe et la série. Donc je vais rappeler rapidement cette distinction sartrienne en vous lisant, en commençant par la définition qu'il donne du collectif. J'appelle collectif la relation à double sens d'un objet matériel inorganique et ouvré à une multiplicité qui trouve en lui son unité d'extériorité. Alors, cette phrase m'a posé de nombreux problèmes. Et puis en fait, j'ai lu un jour que Sartre avait écrit la critique de la raison dialectique en consommant une vingtaine de cachets d'amphétamine par jour, et j'ai compris que je ne pouvais pas suivre le rythme de sa pensée. Donc je vais laisser de côté cette phrase et, en reprenant plus calmement et lentement ce qu'il a écrit, essayer de résumer les points que j'ai pu comprendre. Donc la série, le premier type de collectif qu'évoque Sartre, c'est un collectif qui est réuni par un intérêt commun. Un intérêt commun qui rassemble les êtres de l'extérieur, en quelque sorte. Ce que Sartre appelle une unification en extériorité, un rassemblement extra-conditionné, c'est-à-dire qui ne tient pas, encore une fois, à des particularités ou à des identités durables, mais qui tient à l'intérêt du moment qu'on voit partager avec quelqu'un. Et on voit, en ce sens-là, que l'appartenance à un espace, à un même espace, à un même territoire, à une même classe, à une même, intérêt social ou économique à préserver, relève de cette forme de collectivité, relève de ce collectif ou de cette série qu'évoque ça. Alors, ce type de forme implique aussi une aliénation, en un sens, puisque chacun est identique à l'autre, et en même temps n'exprime pas ce qu'il est dans ce groupe, donc est aliéné. On a cette aliénation, on se fond aux autres, en même temps on ne peut pas exprimer ce qu'on est, donc on est autre que soi-même dans ce type de groupe. Ce qui implique que, en son fond, la relation qui existe entre les membres du groupe est une relation d'indifférence. Il y a une séparation d'extériorité, on reste extérieur en fait aux autres. Je cite cette définition, la série c'est un rassemblement d'hommes où chacun est seul parce qu'il est interchangeable avec tous les autres, ne pouvant être soi, ne créant pas un lien réel avec les autres, on peut être remplacé par les autres, donc on est indifférent aux autres. Sartre parle donc de communauté d'équivalence, et il me semble encore une fois qu'à première vue, la socialité, la première forme de socialité que j'ai distinguée, socialité territorialisée, pourrait être analysée en ces termes, et que le procédé, par exemple, flaubertien, de recours au discours indirect libre pour reprendre les paroles des personnages hein, qui plongent dans l'anonymat l'émetteur précis des propos, contribue à cet effet d'indistinction hein, entre tous les êtres, d'équivalence entre tous les êtres et l'impression d'une forme d'indifférence des identités, d'indifférence des êtres les uns aux autres. Hein, ce sont les personnages sans nom et sans visage qui disparaissent. Autre caractéristique de la série, c'est le fait qu'il y a finalement séparation de chacun, assignation à chacun d'une tâche, une sorte de division des tâches. Chacun doit remplir un rôle dans cette collectivité sans qu'il y ait véritable désir de société. Et là encore, il me semble qu'à première vue, le premier type de société que j'avais évoqué correspond à ça, à cette façon pour chacun de jouer un rôle, d'exercer une fonction dans le temps de la scène. Dernier point, dernière caractéristique de cette forme de collectivité, au fond, chacun y est passif, hein, il n'y a pas de réelle activité, chacun subit en quelque sorte le fonctionnement global, le système global de la socialité. Et là encore, hein, activité passive ou passivité active, écrit Sartre, là encore, superficiellement en tout cas, le collectif la ronde mondaine en quelque sorte, semble relever de la série. Alors, le terme opposé, ce à quoi Sartre oppose la série ou le collectif, c'est le groupe. À partir du collectif peut naître dans certaines circonstances historiques hein, ce que Sartre appelle le groupe en fusion. C'est-à-dire un groupe qui, en réaction d'abord à une réalité insupportable, un caractère insupportable de la réalité, se met en action. Qui, par une forme de colère ou de réaction aux événements, se met en action et découvre, comme si un groupe découvrait sa capacité d'action à l'occasion d'un événement. Évidemment, l'exemple par excellence pour ça, c'est l'événement révolutionnaire. L'occasion d'une révolution, c'est ça. Hein, il y a apocalypse, c'est-à-dire que la série se dissout dans le groupe en fusion. Et c'est une unité qui se construit, une unité qui n'est pas donnée par une identité sociale, par une appartenance à un territoire, mais c'est une action, une unité qui se construit dans l'action et dans le mouvement. Le groupe, dans ce cas-là, devient actif. On oppose, Sartre oppose la passivité de la série à l'activité du groupe. Et le groupe se caractérise, pardon, par ce mouvement constant d'intégration, hein, qui vise à faire que le groupe soit pure action et unité. L'action est ce qui soude le groupe, hein, ce qui permet au groupe d'exister, ce qui le soude hein, et qui établit une forme de relation de réciprocité entre les membres du groupe et donc qui met fin à l'aliénation dont on parlait précédemment. Alors, qu'est-ce qui opère, qu'est-ce qui peut être la condition de la transformation du collectif en groupe? Je l'ai dit, c'est la réaction donc à un événement, à quelque chose d'insupportable qui ne peut plus être supporté. C'est le passage à l'action et c'est l'unité de la fin que se donne le groupe. On se donne une fin, ce qui n'était pas le cas pour la série. Et là encore, il me semble que superficiellement, en tout cas, la deuxième forme de socialité que j'évoquais dans la première partie pourrait sembler correspondre à cette conceptualisation, à ce concept de Sartre, hein, avec comme ça passage à l'action, constitution du groupe, mouvement qui s'enclenche, et avec comme ça des marques explicites de cette unité qui se constitue. Hein, je pense bien sûr à la métaphore du flot qu'on a bien sûr souvent chez Hugo, cette métaphore du flot, hein, de cette unité en mouvement qui se constitue, cette naissance du chant collectif, hein, c'est très frappant, c'est de façon presque un peu drôle. Dans chacune des scènes où un groupe de manifestants est présenté dans l'éducation sentimentale, la Marseillaise se fait entendre. Hein, j'ai repéré à 5 reprises comme ça, la Marseillaise est enclenchée et c'est le moment voilà, où le groupe existerait en tant que tel. Et en un sens, certaines scènes de socialité masculine ou d'amitié semble relever de ce modèle. Hein, on se découvre des affinités, il y a un même mouvement de colère contre le pouvoir qui s'exprime, que viennent marquer donc ces tous hein, que je citais fréquemment. Il me semble qu'en fait, à ne bien y regarder, cette opposition ne tient pas et qu'on ne peut pas reprendre ces catégories pour le texte de Flaubert. Ça sera mon troisième point de cette partie, hein, la vérité du groupe, hein, le petit 3, la deuxième partie. Il me semble en effet que les points communs, finalement, entre les différentes formes de société l'emportent, que la vision flaubertienne est plus générale, moins différenciée. Donc, je vais passer rapidement en revue les éléments qui semblent remettre en question la possibilité de simplement classer comme ça les groupes en fonction des catégories de Sartre. Tout d'abord parce que, me semble-t-il, ce qui est premier dans tous les cas, c'est le partage d'un imaginaire, ce que partagent les personnages. C'est une forme, voilà, d'imaginaire, de ce que Philippe Dufour appelle des formations imaginaires, hein, des certaines représentations, certaines idées de ce qu'est le groupe. Hein, le personnage de Frédéric est une bonne image de ça, cette façon comme ça de doter presque magiquement les Dambreuses ou Madame Dambreuse de qualité, de vertu, d'une atmosphère qui l'enveloppe, dans laquelle il est pris, relève de ce domaine de l'imaginaire, une sorte d'autosuggestion ou de croyance, et qu'on retrouve aussi dans la présentation des collectifs politiques, hein, qui semblent s'enivrer de certaines proclamations, de certains discours, et qui partagent finalement un imaginaire plus qu'une véritable cause. Deuxième chose, c'est que dans l'éducation instrumentale, de façon quasi systématique, il n'y a de groupe, quelle que soit la forme du groupe, que sur fond d'une exclusion et que sur fond d'une forme de violence, hein. Dès le chapitre 4, on avait ça, puisque Dussardier était à la fois violenté et exclu du groupe. On retrouve ça de façon beaucoup plus ponctuelle et moins grave dans certaines scènes, hein, au Club de l'Intelligence, lorsque Frédéric est expulsé en quelque sorte, dans la pendaison de crémaillère de Frédéric, hein, c'est Monsieur Arnoux qui là aussi est exclu à la satisfaction des autres. Il n'y a pas de socialité en quelque sorte sans sacrifice, sans qu'il y ait un bouc émissaire. Et là, il me semble aussi que Zola radicalisera la perspective de Flaubert. Hein, que chez Zola, évidemment, il faut qu'il y ait un exclu, un bouc émissaire, un sacrifice au sens fort du terme pour que la communauté et que le groupe puissent exister. Point suivant, le groupe chez Flaubert, quelle que soit la forme qu'il prend, est unifié en fait toujours par l'extérieur. Hein, il faut qu'il y ait unification par l'extérieur. C'est-à-dire dans la lutte contre ce que Sartre, là je reprends le terme de Sartre, contre ce que Sartre appelle un super autre, hein, toujours contre une figure de l'ennemi, une figure d'un tiers menaçant qui va unir le groupe. Hein. L'unité n'est pas première, elle se fait contre un ennemi, hein, avec une forme de ressentiment qu'on retrouve à tous les endroits. Alors là aussi, je vais vite pour des raisons de temps parce que vous connaissez tout ça, mais dans les scènes. Toutes les scènes qui regroupent Frédéric et ses amis, hein, il s'agit à chaque fois de se plaindre du gouvernement, manifester la haine contre le gouvernement. Dans la troisième partie du roman, lorsqu'il est question des classes intéressées, du milieu d'affaires ou la petite bourgeoisie, haute bourgeoisie qui entoure Monsieur Dambreuse, s'exprime à chaque fois comme ça la haine ou la peur du peuple. Hein, j'y reviendrai. Donc, toute collectivité est la même chose, hein, ça apparaît lors des événements révolutionnaires, cette façon de désigner une figure de l'ennemi. Toute collectivité se constitue, se forge contre un ennemi et du coup retombe dans la sérialité, dans la série qu'évoque Sartre. Le moteur de l'action est le ressentiment ou la violence, comme si l'unité était conférée par l'adversaire, une unité d'extériorité ou une unité par la négative. Qui fait que le groupe, pour le groupe en tant que tel, ne reste jamais groupe au sens sartrien du terme. Il se fait tantôt foule, tantôt addition d'individualité. Et on voit comment les deux aspects sont évoqués par Flaubert. Parfois, lorsqu'il évoque comme ça la masse, le grouillement énorme de la foule, hein, cette masse grouillante, l'image revient à plusieurs reprises. On a un peuple qui devient une pure foule, c'est-à-dire un amas indifférencié d'êtres menaçants. Ou d'autres fois, on assiste à une forme d'équivalent généralisé des êtres où chacun défend son intérêt et son désir. Hein. Je pense à la scène de la prise des Tuileries. On a chacun satisfaisait son caprice. Hein, l'impression, comme ça, Sylvie Trier a bien commenté cette dimension-là. Cette impression d'une cacophonie où chacun, de façon solitaire, poursuit son intérêt. On aurait la même chose dans le club de l'intelligence. Hein. Il n'y a pas ici collectivité au sens fort du terme, c'est une forme de cacophonie où chacun vient exposer son désir, son utopie, où personne n'écoute ce que disent les autres. Hein. Et la révolution permettrait cet éclatement ou aboutirait à cet éclatement. En un sens, le bal aussi aboutit à cette dimension. Si bien que l'opposition actif-passif ne tient pas non plus chez Flaubert. Hein, quand on regarde bien évidemment la scène de la prise des Tuileries, elle se résout par ce fameux passage, hein, que je ne résiste pas quand même au plaisir de vous relire. Le fauteuil fut enlevé à bout de bras et traversa toute la salle en se balançant. Sa prelote, comme il chaloupe, le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse. Qu'en canne-t-il? Qu'en cale-t-il? Hein, donc évidemment, là, une dimension carnavalesque très, très forte, hein, très, très nette, avec ce trône royal qui danse. On n'est pas loin des scènes de bal masqué. Et la scène, évidemment, fait signe vers d'autres épisodes antérieurs du roman, avec la mention du cancan. On peut penser au délire du cancan au bal de l'Alhambra. Et puis l'image de la chaloupe, hein, la sauvagesse imitait l'oscillation d'une chaloupe. Hein, on avait cette image déjà dans le bal costumé chez Rosanette. Hein, et donc la distinction entre ces moments et ces actions s'efface. La dimension spectaculaire et grotesque fait qu'il n'y a pas d'action au sens strict du terme. Il n'y a pas d'action pure, hein, c'est une parenthèse philosophique. D'ailleurs, Maurice Merleau-Ponty, dans un ouvrage consacré, enfin, chapitre consacré à Sartre, reprochait à Sartre sa conception de l'action pure en disant qu'il n'y avait jamais d'action pure, hein, mais une dimension justement impure et spectaculaire et parfois théâtrale. Qu'on retrouve justement chez Flaubert. Évidemment, il y a cette assimilation des événements historiques à un spectacle à regarder qui fait que la distinction entre actif et passif, au moment où le peuple est actif, qui ne tient pas, et qui rétablit d'ailleurs du coup la distinction entre spectateur et acteur. Hein. Là aussi, vous savez que je suis très souvent, par exemple, chez Rousseau, hein, l'idée de fête, hein, c'est l'idée de ce moment où il n'y a plus d'acteurs, de spectateurs, hein, où tout le monde est à la fois acteur et spectateur, participe de ça. De manière très frappante dans l'éducation sentimentale, la distinction se rétablit en permanence. Hein. Frédéric devient un spectateur, il est au spectacle, hein, c'était un mouvement, un spectacle des plus drôles devant les actions historiques. Autre point, conséquence de ça, c'est que il n'y a pas d'action à proprement parler. Hein, il y a plutôt une agitation qu'une action au sens strict du terme, ou alors une action uniquement par la négative. Hein. Lorsque Des Lauriers s'exalte et lance des discours offensifs, hein, ça aboutit à la destruction d'un beau verre à pâte qui se fracasse en mille morceaux, hein, au sommet de cette scène. Hein, donc c'est destruction à valeur essentiellement symbolique. On peut se souvenir la scène aussi où la pipe de Dussardier est détruite, hein, son grand désespoir. Mais la scène des Tuileries aboutit à cela aussi. Hein, le peuple brisa, lacéra les glaces et les rideaux. Hein, il détruit des objets symboliques. Il n'a qu'une action dérisoire finalement et purement négative, hein, puisque l'exaltation du peuple révolutionnaire finit sur une agitation grotesque et essentiellement symbolique par brûler le fauteuil. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'action là aussi au sens fort du terme. Et pour conclure cette partie, on voit que domine, persiste le motif de la séparation, hein, dans Flaubert. Comme si la possibilité d'une réelle union, d'un réel collectif était battue en brèche. On le voyait dès le chapitre 4, hein, puisque même lorsque Frédéric Husonnet allait défendre Dussardier, il le laissait finalement à sa solitude, n'allait pas manger avec lui, rétablissait une séparation. C'est d'ailleurs un des reproches aussi de Des Lauriers à Frédéric, hein, le fait que voilà, il lisait les 13 quand ils étaient jeunes, hein, c'est avec ce fantasme de l'association, mais que une fois dans la réalité, c'est chacun pour soi en quelque sorte. Hein. Donc il y a ce motif comme ça de l'inconstance, de l'inconsistance du commun, hein, qui revient dans l'éducation sentimentale et qu'on pourrait opposer, comme l'ont fait certains commentateurs, aux images du groupe qui sont données dans Illusion perdue, hein, le Cénacle dans Illusion perdue, ou à celle de l'ABC, bien sûr, dans Les Misérables, je ne développe pas. Hein. Et ce qui est frappant, bien sûr, c'est que toute alliance, toute constitution d'un groupe, hein, dans l'éducation sentimentale, apparaît réversible, hein, apparaît provisoire, peut-être renversé, d'où la centralité d'un motif qui est aussi chez Sartre, mais comme sorte de contre-modèle absolu de choses à laquelle il faut dont il faut se préserver, le motif de la trahison, hein, omniprésent bien sûr dans l'éducation sentimentale. C'est la trahison bien sûr de Sénécal qui à la fin signe le glas d'une amitié, d'une espérance politique, d'une génération. Mais la trahison semble être finalement la vérité de ce social, hein, dire l'impossibilité d'une union substantielle en quelque sorte, qu'on soit dans le cercle de la spirale de l'amitié, dans le cercle mondain ou dans la ligne de l'action historique, c'est finalement ce motif qui domine. Les seules unions qui sont créées sont des unions par les affects en quelque sorte. Hein. Donc le collectif apparaît dans l'éducation sentimentale comme une réalité composite, hein, mixte, bifide, c'est-à-dire foncièrement défaillante, hein, à laquelle il manque quelque chose, et dont la conceptualisation dualiste comme celle de Sartre finalement échoue à rendre compte. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a déploration, me semble-t-il, dans l'éducation sentimentale, de l'atomisation du corps social ou de l'impossibilité de faire un tout. Hein, ça sera mon troisième point, je vais être plus rapide, je vous rassure, ce sera mon troisième point, défaire le social, c'est-à-dire en reprenant cette idée qu'il n'y a pas chez Flaubert de déploration, de regret comme il peut y avoir chez Balzac de l'individualisme ou de l'harmonie des fins, d'un corps social unifié, hiérarchisé. C'est peut-être moins la question de la possibilité du lien que la question de la désirabilité du lien qui est posée par Flaubert. Et en ce sens-là, Zola est peut-être plus proche de Balzac que de Flaubert, de ce point de vue-là. Mon hypothèse sera même que l'écriture flaubertienne, ou une partie du mode de représentation adopté par Flaubert, consiste à écrire contre le tout, contre les totalisations, contre toute forme de totalisation, faire voir en quelque sorte une négativité et une négation de la totalisation. Donc, premier, je vais essayer d'inventorier rapidement aussi les procédés flaubertiens, de façon, les stratégies en quelque sorte d'écriture flaubertienne, de cette discordance ou de cette rupture du tout. Alors, premier point, vision à fragmentation, j'ai dit. Alors, je vais vite. On a un texte qui se construit notamment dans l'évocation du collectif, de l'action du collectif, par rupture tonale. Hein, on a, s'il y a de l'épique qui est mis en place, sur un modèle hugolien, immédiatement, c'est contrecarré ou remplacé par grotesque. Hein, dimension lyrique, on a la dimension comique. À chaque fois, il y a des ruptures tonales qui empêchent que quelque chose se constitue et s'installe. Le mode de description adopté aussi contribue à cette fragmentation. Hein, on a comme ça une vision par petit groupe, par dans le scène de balle, il y a cet effet de pulvérulence lumineuse. Hein, on retient comme ça des petits détails, comme si des détails étaient arrachés aux totalités, comme si des éclats de lumière ou des éclats de sensation étaient arrachés à la vision totalisante qui pourrait donner l'effet de collectif ou l'effet de groupe. La composition dans les scènes historiques, hein, la composition par juxtaposition de petits tableaux, l'adoption de la focalisation externe qui ne retient des comportements que leur aspect extérieur, la suppression des connecteurs logiques, enfin tous ces traits d'écriture que les Flaubertiens connaissent bien, contribuent à rompre le tout, empêcher que ce qu'on pourrait appeler la patte du collectif se reforme aux yeux du lecteur. Il y a un exemple particulièrement clair, ce sera le seul exemple que j'évoquerai, c'est au moment du début de l'évocation des journées de juin 1848. Ça commence ainsi, on criait de temps en temps « Vive Napoléon, vive Barbès, à bas Marie !» La foule innombrable parlait très haut et toutes ces voix répercutées par les maisons faisaient comme le bruit continuel des vagues dans un port. À de certains moments, elles se taisaient, alors la Marseille s'élevait. Donc, on a cette présentation d'un tout avec la foule, la métaphore de la maritime, la Marseillaise qui s'élève. Et après, enchaînement de Flaubert, sous les portes cochères, des hommes d'allure mystérieuse proposaient des canadars. Quelquefois, deux individus passant l'un devant l'autre clignaient de l'œil et s'éloignaient prestement. Des groupes de badauds occupaient les trottoirs. Une multitude compacte s'agitait sur le pavé. Deux petits drapeaux rouges semblaient des flammes, etc., etc. Et puis, conclusion du paragraphe, c'était un mouvement, un spectacle des plus drôles. Donc, on voit comment ici, entre le début la fin du passage, il y a eu comme ça découpage, éclatement, des actions isolées, dépourvues de sens, une transformation de la scène en spectacle, un effet de démotivation en quelque sorte, qui fait qu'on chercherait en vain aussi dans l'éducation sentimentale, quelque chose qu'on a beaucoup dans les textes de l'époque, et parfois même chez Flaubert, je crois qu'il y a un passage comme ça dans l'imaginaire de Bouvard et Pécuchet à la lecture d'un texte historique sur les événements 1793, la première révolution. On chercherait ici l'expression d'une peur de la masse, hein, ou d'une peur réellement de la révolution. On n'a pas ici, hein, Frédéric finalement est rendu gai, joyeux à chaque fois qu'il voit comme ça ces spectacles de la violence. Et de façon systématique, l'action révolutionnaire elle-même n'est pas représentée dans le texte. À chaque fois, on a des bifurcations comme ça. Un seul exemple, on se battait à la porte Saint-Martin. On pense avoir une description ici de l'action collective. Et puis, enchaînement, il y avait dans l'air quelque chose de gaillard et de belliqueux. Frédéric marchait toujours. L'agitation de la grande ville le rendait gai. Une sorte de bifurcation du texte vers Frédéric, vers sa gaieté, un peu décalée par rapport aux événements. Et donc le travail, ce que Sartre appelle le travail souverain de la foule, n'est pas représenté. Et à plusieurs reprises, on a ce phénomène. Je ne citerai pas tous les exemples. La présence même de Frédéric, hein, le fait, sa perception un petit peu décalée, la nature même de son regard, que ce soit dans les scènes révolutionnaires ou dans les scènes où il est au milieu des bourgeois chez Dambreuse, sa présence même introduit comme ça. Crée un effet de fragmentation, hein, empêche de lier les scènes les uns aux autres, empêche de lier les visions les unes aux autres, ou marque les opinions comme étant des opinions et permet donc à l'écriture de faire un bond hors du cercle des opinions, comme l'a bien souligné Claude Mouchard. Autre technique, la technique de l'arrêt sur image. On connaît cette technique impropre à Flaubert. Lors du défilé, justement, je parlais de défilé, eh bien, lors du défilé, il y a arrêt sur une image, sur un personnage, sur un élément contingent, privé de sens, asocial, qui défait la cohésion du tout. Là aussi, son exemple connu, l'image du grand jeune homme pâle, hein, dont les cheveux noirs flottent sur les épaules, l'image du vieillard en manche qui pleure à sa fenêtre. Au moment de la prise des Tuileries, hein, on a trois images comme ça qui s'enchaînent, mais qui dans des propositions indépendantes, hein, qui alors qu'on s'attend à une représentation du collectif, on se tourne vers ces trois figures, la femme qui lustre ses bandeaux dans la chambre de la reine, les amateurs qui jouent aux cartes derrière un paravent, et l'individu qui fume son brûle-gueule accoudé sur un balcon. Hein, on a comme ça des figures d'anonymes, une sorte de poésie étrange qui est présentée ici, une poche de silence au cœur du délire et du tintamarre, écrit Sylvie Trier, qui produit un effet d'étrangeté et puis évidemment qui introduit une faille dans le tout en marche et dans le mouvement qui est présenté. Autre technique, la division du tout, hein, c'est mon deuxième point, diviser le tout. Là, c'est aussi une technique très frappante chez Flaubert, c'est de manière quasi systématique, enfin vous me direz si je me trompe, de manière systématique, quand une totalité est présentée, soit au niveau de la focalisation, soit au niveau de l'action elle-même, la représentation isole un personnage, soit qui est en position de spectateur, soit en position d'exclu, qui est arraché en quelque sorte au tout et qui crée donc une faille, qui relativise en quelque sorte la force et la valeur du tout. Donc là, il y a la représentation de la collectivité s'accompagne d'inscription d'un regard qui en défait la totalisation en quelque sorte. Je vais très vite. Hein. Frédéric et Hussonnet, au moment des événements de février 48, jouent ce rôle, hein, sont décalés par rapport à l'action. Hussonnet trouve le peuple, les héros ne sentent pas bon, manifestent son dégoût et donc introduit un regard dissonant dans la célébration au moment où célébrer en quelque sorte l'élan révolutionnaire. Il s'extrait de l'illusion lyrique, hein, ce qui agace Frédéric. Au club de l'intelligence, évidemment, c'est l'inverse. C'est Frédéric qui est l'élément isolé dont le regard sur le groupe est négatif, sans d'ailleurs que sa position soit valorisée. Donc cette idée, évidemment, d'un groupe de discussion, d'échange, de débat est battue en brèche par cette expulsion et cet acharnement contre Frédéric. Dans le pique-nique au début du roman, je prends des exemples assez varié. C'est Sénécal qui est isolé, qui ne se réjouit pas avec les autres. Dans les réunions amicales chez Deslauriers, le seul à défendre Louis-Philippe, c'est Martine. Non, et qui s'isole du groupe des amis. Au bal de l'Alhambra, Frédéric est isolé des autres parce qu'il ne poursuit pas la recherche d'une femme, une rencontre féminine. Et puis Martinon, là aussi, se retrouve isolé dans ce bal. Même chose chez les Dambreuses. En février 48, Frédéric, attendant Madame Arnoux, se cache de ses amis pour ne pas être emporté par le mouvement des manifestants. Dans la réunion amicale chez Deslauriers, c'est Dussardier qui est isolé lorsqu'il exprime sa conception plus forte de l'amour, hein, sa recherche d'un être aimé pour toute la vie. Donc il y a toujours un point de division du groupe qui est recherché. Alors, en ce point, il faut distinguer, ce sera la fin de cette partie, ma troisième partie. En ce point, il faudrait distinguer tout de même entre deux types de collectifs, hein, les collectivités amicales ou politiques, d'un côté, qui sont voilà, soudées par des mots, des idéaux, un désir d'action, en quelque sorte, et puis les regroupements idéologiques autour de la bourgeoisie qui défend ses intérêts. Hein. Et la remise en cause du tout, en quelque sorte, sorte où l'expression du tout ici s'oppose et prend des formes très différentes. J'ai distingué entre dispersion du côté de la dispersion d'un côté de la destruction de l'autre. Donc du côté de ces collectifs, hein, de ces collectifs d'amis, de ces collectifs politiques, la durée romanesque est là aussi de façon systématique celle d'une dissolution. On a le spectacle d'un tout qui se disperse. Qui éclate en multiplicité, pardon, un tout qui se disloque et qui aboutit en quelque sorte à un vide. C'est très bien montré d'emblée dans la scène du bal, par exemple, hein, une description échevelée de l'action, du mouvement des danseurs, hein, à l'Alhambra. Et puis vous avez ce tiret, vous vous souvenez, tirait et à la dernière fusée, la multitude exhala un grand soupir, hein, avec cet effet de d'hyperbate, une proposition très brève, un ralentissement du rythme et un effet de rassemblement qui ne produit qu'un souffle ici. Toute une action, un mouvement collectif, etc., qui n'aboutit qu'à ce soupir. Même chose dans une scène de groupe où tout le monde parle, s'agite, etc. Et la description de Flaubert finit par « Et la lumière des bougies roses passée dans la fumée des cigares » comme des rayons de soleil dans la brume. Et la violence qui semblait s'exprimer, le trop-plein en fait, d'émotions et d'énergie des personnages, est ici désamorcé par cette image poétique. Autre exemple, hein, les scènes de réunions amicales, très souvent aboutissent à une décomposition du groupe. Un seul exemple, la scène dans la pendaison de crémaillère, exemple particulièrement frappant. Enfin, à 5 heures du soir, tous s'en allèrent, hein, exhibition du groupe, et ils marchaient les uns près des autres, sans parler, quand Dussardier se mit à dire que Frédéric les avait reçus parfaitement. Tous en convinrent, et puis ensuite, on a une succession de paragraphes qui évoquent un par un chacun des convives, qui va faire part d'une plainte, d'une critique contre Frédéric et faire voir que le contentement généralisé n'était que de façade et qui va faire voir l'individualité de chacun, les obsessions propres à chacun. Et le passage à la ligne, bien sûr, la juxtaposition de ces brèves propositions, sans mot de liaison, accuse les séparations et montre la dissolution du tout. Même chose chez Dussardier et même chose peut-être dans les scènes historiques, hein, prise de Tuileries, avec toujours ce double mouvement et cette succession, en quelque sorte, hein, séquences qui sont construites sur le même mode, avec toujours ces quatre temps, vous pourrez vous reporter aux exemples. Exhibition d'abord de la totalité, de la vie, du mouvement, avec la métaphore, le champ commun, etc. Narrativité, hein, construction d'un narratif avec un enjeu narratif, hein, donc un mouvement en quelque sorte centripète, qui est décrit ici. Et puis, déperdition de l'énergie, un mouvement centrifuge qui se met en place, éclatement en quelque sorte, et à la fin, dispersion brutale, évanouissement, hein, comme s'il n'y avait au fond pas d'événement, comme s'il était de l'essence du groupe de s'évanouir, de ce collectif dont parlait Sartre. à l'opposé, si on se tourne vers la représentation des forces conservatrices, on constate une différence très nette. Ici, c'est au contraire un phénomène de concentration, de tension narrative, de violence qui va trouver à s'exprimer, hein, et que l'écriture de Flaubert, à de nombreuses reprises, dénonce, hein, qu'il dénonce les excès de façon assez violente elle-même dans l'écriture. Hein, dénonce ce fanatisme des intérêts, hein, j'utilise la formule de Flaubert, et qui trouve à se concrétiser ou à s'incarner de façon particulièrement frappante dans des scènes qui mettent en jeu un individu violent. Hein, c'est très frappant. Si visuellement, en quelque sorte, hein, les scènes avec les groupes politiques, c'est une unité qui part en multiplicité, et là, c'est une multiplicité qui vient s'incarner et trouver sa pointe ou son point d'aboutissement en un personnage et en une séquence qui résume les choses et qui résume la vérité de ce groupe et sa violence très concrète. Je pense aux deux scènes, une avec le père Roch et l'autre avec Sénécal, où la construction de la scène est faite pour aboutir à un personnage qui est l'incarnation du groupe, qui est une sorte d'allégorie du groupe, et au geste extrêmement violent, destructeur, hein, qui détruit en quelque sorte le lien social et qui produit un effet de sidération, hein, et un énorme hurlement puis rien, ou la fameuse béance de Frédéric, qui témoigne de cet effet, de cette violence, hein, de cette action. On pourrait mettre en série, en quelque sorte, ces scènes, et en pensant même à la scène du chapitre 4, lorsque la pipe du Dussardier est détruite, hein, où on a à chaque fois les mêmes phénomènes, hein, les mêmes constructions, passivité de la foule muette et écrasée, hein, passivité contemplative de la foule muette et écrasée, position de spectateur de Frédéric, héroïsme sacrificiel d'un personnage, hein, du Dussardier, ou alors la figure christique du jeune homme qui se fait tuer par Roch, violence disproportionnée, inutile, qui a une valeur finalement aussi symbolique, et puis béance, blanc, silence, glaciation en quelque sorte après. Et on remarquera d'ailleurs dans le cas de la scène avec Sénécal, hein, l'agent fit un cercle autour de lui avec son regard. On remarquera qu'on retrouve l'image du cercle ici, mais qui a bien sûr changé de sens. Désormais, c'est la peur, la stupéfaction qui circule entre les membres de l'Assemblée. C'est le peuple pétrifié qui est assigné à l'immobilité au spectacle. Et c'est autour du meurtrier, du traître, du violent que fait cercle le groupe. Et donc, on voit qu'on a cette double façon de procéder de Flaubert. Hein, donc, d'un côté, une narrativité qui est un temps de la dégradation, un temps qui se dissipe, qui se futilise en quelque sorte, hein, un tout qui se défait. Le défilé est haché, est entravé, hein, il y a des problèmes d'enchaînement ou des faux raccords, pour prendre un terme cinématographique. Et de l'autre, au contraire, le modèle de la scène dramatique avec une force qui se rassemble et qui s'exprime par un geste violent, hein, qui exprime le sens de la coagulation ou de la coalition. Alors, ça pourrait se dire en termes kantiens, ce sera ma rapide évocation du texte de Kant. On se souvient que pour Kant, il y a cette Juliette Azoulay l'évoquait tout à l'heure, hein, il y aurait le lien social serait ce rapport oxymorique entre deux tendances chez l'homme, hein, une recherche de la sociabilité, une recherche du lien, et en même temps une difficulté à vivre ce lien puisque il y a compétition, hostilité à l'autre. Il y aurait cette double dimension, et il me semble qu'on pourrait retrouver chez Flaubert cette relation oxymorique, cette double dimension, où à chaque fois qu'une sociabilité s'exprime, elle trouve à s'exprimer ou elle trouve comme point d'aboutissement une violence, une marque d'insociabilité. Hein, la sociabilité autour de D'Ambreuse aboutit à l'insociabilité, ou inversement, hein, à chaque fois qu'une insociabilité s'installe, elle crée un effet de sociabilité entre les membres unifiés par cette haine ou par la peur de quelque chose. Donc, chez Flaubert, la sociabilité suppose l'insociabilité et la sociabilité s'accompagne de sociabilité. Donc, il y aurait une sorte d'illustration, de manière de rejoindre la paradoxale thèse de Kant, en une version qu'on pourrait dire radicalisée, hein, puisque elle trouve son aboutissement à chaque fois par une violence, une insociabilité féroce, hein, terrible dans l'éducation sentimentale, ou dans une sociabilité inefficiente, hein, celle de la manifestation des amis. Et puis, radicalité est une version non dialectique. C'est un point important, me semble-t-il, parce que chez Kant, bien sûr, ce qui est important, c'est qu'il y a un troisième temps, une sorte de synthèse, c'est-à-dire que cette insociable sociabilité contribue au progrès de la société et même plus généralement au progrès de l'humanité. C'est cette conjonction-là qui fait qu'on veut s'améliorer, on veut faire mieux et donc la société progresse. Chez Flaubert, évidemment, manque ce troisième temps. Il y a autocorrection en quelque sorte chez Kant, hein, de tendance, alors que chez Flaubert, il y aurait une auto-annulation, si je puis dire. En tout cas, il n'y a pas de troisième terme qui permet au groupe de produire. Ce n'est pas hasard si c'est cet effet de blanc et de béance, hein, qui est finalement produit. Donc, on a chez Flaubert pas de tout sans un élément qui s'accepte, pas d'action qui ne soit finalement impuissante ou violente, pas de sociabilité qui s'accompagne d'une insociabilité latente ou exprimée. Et on a comme ça, finalement, ces trois formes, ces trois figures qui apparaissent. Le collectif impersonnel porteur de violence, hein, souvent la police qui l'incarne, des individus ou des atomes complètement séparés, que je n'ai pas évoqués parce qu'ils n'appartiennent pas au collectif, hein, comme Régimbard, par exemple, et puis au milieu, des collectivités instables et oxymoriques, hein, qui ne produisent aucun effet réel. Alors, on pourrait en rester là, on devrait même en rester là vu l'heure très avancée. Je vais tout de même très rapidement évoquer un dernier point, c'est mon quatrième point, une société à deux, pour évoquer quand même un type, une socialité ou une forme de relation sociale quand même qui, me semble-t-il, échappe à ce diagnostic ou aux classifications ou aux éléments que j'ai évoqués jusqu'ici. Cette relation, enfin, si vous me permettez d'évoquer, cette relation, c'est celle qui existe entre Frédéric et Deslauriers. Hein, cette relation qui ne cesse de se renouer entre Frédéric et Deslauriers, réconciliés, vous vous souvenez, à la fin du roman, encore une fois, par la fatalité de leur nature. Comme si, aux espoirs d'une formation de l'individu, ou aux violences de l'histoire, au déchirement et aux violences des formations sociales, le roman opposait cette possibilité-là, qu'on pourrait dire infrasociale et même infra-individuelle, du partage d'une expérience et du partage d'une sorte d'égalité sensible, pour reprendre une expression de Jacques Rancière. Donc, premier point, la nature de cette relation, j'ai intitulé ça, des corps et des mots. Alors, pourquoi des corps et des mots? Parce qu'il me semble qu'on a affaire ici à une sorte de communauté minimale, qui n'a pas d'autre fondement qu'une bien étrange nature, en quelque sorte, hein, d'une relation qui existe en deçà de l'histoire et en deçà de la société. Alors, je dis relation et pas rapport, justement, parce qu'on pourrait opposer les deux termes. C'est ce que fait le penseur Gilles Simondon, hein, en faisant des rapports. De rapport, c'est ce qu'il dit des termes déjà individués, hein, qui ont déjà une existence en tant que telle, hein, et on établit un lien entre les deux, alors que la relation n'est pas ce qui relie des termes préexistants, c'est ce qui constitue comme ça un être en commun, ce qui fait exister quelque chose. Eh bien, il y aurait une relation Frédéric et Deslauriers qui n'est pas l'amitié en tant que telle, qui n'est pas une relation sociale, mais qui consiste essentiellement dans le texte, dans ces sortes de pauses qui sont faites à différents moments du roman, où les personnages partagent voilà, partagent leurs rêves, partagent un cigare, partagent des moments de contemplation, des moments de pause, encore une fois, dans le mouvement de l'histoire, où ça me semble bien résumé par les images où les personnages marchent côte à côte, où ils se tiennent côte à côte, et ils marchent dans la rue comme ça, bras dessus, bras dessous. Image, si je dis pas de bêtises, mais vous me corrigerez, qu'on retrouve aussi dans Bouvard et Pécuchet, à propos de Bouvard et Pécuchet. Hein, donc, des images qui présentent des personnages jouissant d'être avec l'autre, de ne faire plus qu'un avec l'autre. Au chapitre 2 de la première partie, notamment, au chapitre 5, hein, je passe pour des raisons de temps, ce moment où les personnages fument des puros, pardon. Donc, où il y a à la à la fois des flux de paroles, des corps en mouvement, des entremêlements des rêves, une sorte de gonflement de l'imaginaire ou d'union dans la mémoire à la fin du texte, une forme de fusion sensible. Et on voit où ça ne passe pas par l'action, justement, ça ne passe pas par la praxis qu'évoque Sartre, mais par voilà, une sorte de musicalité commune ou de rythme commun dans lequel sont pris les personnages. Et là, évidemment, il faudrait, si on avait du temps, mais ça peut se faire facilement, il faudrait opposer cette vision-là ou cette dimension culturel, en quelque sorte, que fait surgir ici Flaubert, faudrait l'opposer à ce qu'on a chez Zola, hein, bien sûr, cette dimension naturelle, au contraire, est du côté d'une sorte de force archaïque, d'une pulsion archaïque, qui vient défaire toute possibilité de lien, hein, qui vient soit du côté de la volonté de néant, de destruction chez Lantier, soit l'abandon au néant chez Gervaise, qui vient rendre impossible qu'il existe une société, une relation et quelques formes de relations, hein, qui installent le dérèglement, le dysfonctionnement, etc. Donc, si la société était minée par des pulsions en dessous. Chez Flaubert, on a l'impression ici que n'existe plus que deux corps parlants en relation. Et ça culmine évidemment à la fin du roman, dans cette scène ultime du roman, c'est mon deuxième point, faire le point, lorsque les personnages, évidemment, font le point. Où on a l'impression qu'ici, il y a une sorte d'abolition de l'individualité de chacun de ces personnages. On a quelque chose aussi de très frappant, c'est qu'il y a une sorte de déréalisation de la situation. Hein, il n'y a pas tellement d'ancrage dans un temps, dans un décor. Le décor n'est pas décrit. Hein, les personnages deviennent anhistoriques, en quelque sorte, ou déterritorialisés, si je puis dire. Ils se tiennent en un point. Hein, ils font le point, alors pardon du mauvais jeu de mots, hein, vous m'excuserez, mais ils font le point qu'il faut opposer au cercle et à la ligne que j'évoquais précédemment. Hein, ils font défiler les époques devant eux. Ils ont constitué leur propre cercle. Et tout le reste n'existe plus. Ce serait, ils font exister de cette façon la possibilité d'une sociabilité minimale, qu'il faudrait situer d'ailleurs sans doute à l'intérieur de l'œuvre flaubertienne, semble-t-il, entre une scène qu'on a dans Novembre, hein, dans un des premières œuvres de Flaubert, où qui raconte les retrouvailles de deux amis après des années, où domine la distance, hein, l'effet de distance, il n'y a plus de relation possible, hein, donc là même cette forme de retrouvailles ne marche plus, hein, il n'y a plus de socialité possible, et à l'inverse, toutes les scènes d'Embouvard et Pécuchet, hein, qui célèbrent comme ça cette fusion, cette amitié, ou cette circulation, cette invention d'une certaine manière d'être hors du social. Et ça sera mon dernier point, la sociabilité. Hein, le point important, me semble-t-il, c'est que voilà, cette relation semble exister hors de toute sociabilité et semble finalement triompher de manière évidemment paradoxale, avec toute l'ironie qui accompagne bien sûr cette dernière scène. Et il me semble qu'à cet effet, il serait intéressant de comparer avec la relation amoureuse, hein, que je n'ai pas évoquée jusqu'ici. On a souvent insisté, bien sûr, sur la structure en boucle, hein, du roman de Flaubert, hein, c'est-à-dire scène. Première rencontre avec Madame Arnoux, premier chapitre, avant-dernier chapitre, scène de rupture, de retrouvailles et de rupture, hein, on revient à elle, et deuxième scène du roman, deuxième chapitre du roman, Frédéric et Deslauriers, qu'on retrouve la dernière scène. Hein. Donc il y a cet effet de boucle très, très frappant. On peut noter aussi que les deux face-à-face inauguraux ont en commun d'être interrompus à chaque fois. Hein. Madame Arnoux et Frédéric sont interrompus par l'irruption conjugale, hein, de monsieur Arnoux, et Frédéric et Deslauriers sont interrompus de manière incessante par le domestique de la mère de Frédéric qui veut qu'il vienne manger, et puis ensuite par le père Roch qui surgit de façon totalement surprenante. Et inversement, deux scènes de fin, là, que ce soit la relation amoureuse et la relation amicale, il n'y a plus d'interruption. Hein, voilà, ce petit cercle où cette sociabilité asociale semble pouvoir exister. Mais on a peut-être moins insisté sur ce qui différencie les deux scènes de fin. C'est-à-dire que dans le cas de la relation amoureuse, dans le cas de la relation érotique, hein, le « ce fut comme une apparition » s'oppose bien sûr au « ce fut tout » qui marque la clôture de la séquence amoureuse. Tandis que dans le cas de la relation entre Frédéric et Deslauriers, la première scène s'achevait par, c'est la fin du deuxième chapitre, et après une longue étreinte, les deux amis se séparèrent, alors qu'à la fin du roman, il y a cet effet de presque d'écholalie finale qui dit une union perpétuelle, presque éternelle, entre les deux amis. Il n'y a plus de séparation, les personnages, loin des jeux du social, loin des emportements du politique, semblent exister et pouvoir prolonger cette existence. Alors, on pourra trouver dérisoire, bien sûr, la position à laquelle ils sont parvenus, la sagesse qu'ils ont conquise. Il est difficile d'écarter l'ironie de cette fin, de cette manière de faire d'un moment de défaillance, hein, la visite au bordel, hein, le meilleur jour d'une vie. Reste que cette dernière scène exhibe une cellule recomposée, jouissante de cette circulation des paroles, d'un bonheur sensible, à jamais suspendu suspendue, hein, à jamais prolongée, sans cause et sans fin, une finalité sans fin en quelque sorte, hein, pour prendre une autre formule kantienne. Je conclue en trois mots. Premier point, je voudrais souligner comment, en quelque sorte, la perspective flaubertienne dépasse ou contient ce qu'énonce Sartre. Hein, c'est-à-dire qu'on retrouve les formes sartriennes, en quelque sorte, ou annoncées dans l'éducation sentimentale. Elles sont décomposées, analysées, déconstruites, elles sont dépassées. Donc il y a cet effet comme ça. Donc ce n'est pas simplement par la négative, c'est une façon d'en proposer une vision plus large, me semble-t-il, qui est très frappante. Hein. Une sorte de négativité qui n'est pas le refus. Pour reprendre une expression de Claude Duché, une hostilité participante, hein, qui me paraît intéressante. Une façon de faire apparaître les contradictions à chaque fois, alors que le philosophe distingue et pose des choses. Deuxième chose, il me semble que ce traitement du collectif, du lien social chez Flaubert, est un parfait exemple de la littérature exposante et non pas probante, qui donc est antiphilosophique en un sens. Non pas dans ce qu'elle montre, mais dans la manière de le faire apparaître, hein, dans le refus de formuler des jugements axiologiques, dans le refus de manifester, de donner un sens à tout, comme le fait finalement la philosophie rétablissant des hiérarchies et un sens et une signification possible. Troisième point, justement, dans le prolongement de cela, il me semble que du coup le texte nous laisse dans une forme aussi d'indécision, puisqu'on peut lire le texte, l'éducation sentimentale, comme une dépréciation, une dissolution de toute possibilité de communauté et de lien. On peut y lire aussi la peinture d'un rapport enfin heureux au monde. Est-ce que c'est l'amorce d'une socialité ou d'une forme de sociabilité possible qui est au niveau des micro-sensations en fait qui est dépeinte là, ou la démonstration par l'absurde et par l'ironie que la socialité ne peut plus être que cela, hein, minimal et vide de sens. La question est posée, moi pour ma part je ne trancherai pas, mais il me semble que ce double regard, cette double possibilité de lire le Flaubert est un signe de plus que si, comme le disait Juliette Azoulay, chez Flaubert, l'homo est simplex, hein, un homo simplex, la société ou la societas ou le socius est duplex. Je vous remercie pour votre patience. Merci.